Chapitre 12. Monsieur et Madame Glegg chez eux. Si nous voulons voir Monsieur et Madame Glegg chez eux, il nous faut entrer dans Saint-Ogg's, cette vénérable ville aux toits aigus dont les larges quais reçoivent les cargaisons des vaisseaux du Nord, qui emportent en échange les précieux produits de l'intérieur, tels que les fromages durs et les toisons moelleuses, déjà connus du temps des pastorales classiques. C'est une de ces vieilles villes qui vous font l'effet d'être un produit de la nature, tout aussi bien que les nids des oiseaux ou les galeries souterraines des fourmis blanches. Une ville qui porte les traces de sa lente formation et de son histoire comme un arbre généalogique, et qui a poussé et s'est développé à cet endroit des bords de la rivière depuis le temps où les Romains l'abandonnèrent en quittant leur camp sur la colline, et où les rois des mers aux longs cheveux jetèrent en remontant le cours de la rivière des regards sauvages et impatients sur ce riche pays. C'est la ville des temps passés. L'ombre du roi saxon s'y promène encore de temps en temps pour revoir les scènes de sa jeunesse et de ses amours. Elle rencontre l'ombre plus sévère du terrible païen danois qui fut frappé au milieu de ses guerriers par le glaive d'un vengeur invisible et qui se dresse dans les soirées d'automne comme une vapeur blanche s'élevant de son tombeau sur la montagne pour venir errer dans la cour de la vieille halle à côté de la rivière, endroit où il fut assassiné jadis, bien avant que la halle fût construite. Ce furent les Normands qui commencèrent à élever cette belle et antique halle, qui, ainsi que la ville, nous raconte les pensées et les travaux de générations constamment divisées. Mais le tout est si antique que nous pardonnons volontiers les incompatibilités architecturales que nous y voyons, et que nous sommes très heureux de ce que ceux qui ont construit la voûte de pierre et ceux qui ont élevé la façade gothique et les tours de briques du travail le plus délicat, avec leurs ornements à feuilles de trèfle, leurs fenêtres et leurs créneaux à encadrement de pierre, n'aient pas commis le sacrilège d'abattre l'ancienne halle au banquet, à moitié en bois avec sa toiture de chêne. Mais ce qui est bien plus ancien que cette halle antique, c'est peut-être le fragment de mur qui existe encore dans le beffroi de l'église paroissiale, et que l'on dit être un reste de la chapelle originairement dédiée à saint Og, patron de cette vieille ville, de l'histoire duquel je possède plusieurs versions manuscrites. Je penche pour la plus courte, parce que si elle n'est pas tout à fait vraie, c'est en raison de sa brièveté, celle qui renferme le moins d'inventions. Og, fils de Béarl, dit le biographe que je cite, était un batelier qui gagnait à grand-peine sa vie en faisant passer la flosse aux voyageurs. Un soir que le vent était très fort, une femme se présenta pour passer l'eau. Elle portait un enfant dans ses bras et restait sur le bord de la rivière à se lamenter. Elle avait l'air épuisée et abattue et suppliait qu'on la passât sur l'autre bord. Et les hommes qui étaient là lui firent des questions et lui dirent « Pourquoi veux-tu passer la rivière ce soir? Attends à demain matin et mets-toi à l'abri ici pour la nuit. Ce sera plus sage que de faire cette imprudence. » Cependant, elle continua à se lamenter et à supplier. Mais Og, fils de Béarl, vint et lui dit « Je te ferai passer. Il suffit que ton cœur le désire. » Et il le fit comme elle le demandait. Et il arriva qu'en abordant, ses haillons se changèrent en blanches draperies flottantes et son visage devint d'une resplendissante beauté. Et il y avait autour d'elle une auréole de gloire qui illuminait l'eau comme l'éclat de la lune. Et elle dit, « Og, fils de Béarl, tu as été béni en ce que tu n'as point fait de questions et point contesté avec un cœur dans l'affliction. Mais tu as été ému à compassion et lui as franchement porté secours. Et de ce moment, quiconque entrera dans ton bateau sera à l'abri de tout danger d'orage. Et toutes les fois qu'il ira en aide, il sauvera des vies d'hommes et d'animaux. » Et quand vint l'inondation, beaucoup furent sauvés en raison de cette bénédiction. Mais quand Og, fils de Béarl, mourut, voici qu'au départ de son âme, le bateau se détacha de ses amarres et fut entraîné par la marée qui l'emporta avec grande rapidité dans l'océan, et jamais on ne l'a revu. Cependant, on a remarqué dans les inondations suivantes que la veille de leur approche, on voyait toujours Og, fils de Béarl, et son bateau sur les eaux grossissantes, et que la Vierge était assise à la proue, répandant autour d'elle une lumière semblable à l'éclat de la lune, en sorte que les bateliers, dans l'obscurité, prenaient courage et ramaient avec une nouvelle force. Cette légende, comme on voit, dit que, dans ces temps reculés, on était déjà sujet à des inondations, qui, lors même qu'elles épargnaient la vie des hommes, n'étaient pas moins fatales pour les troupeaux et entraînaient à une mort soudaine toutes les autres créatures vivantes. Mais la ville était sujette à des troubles encore pires que les inondations, les troubles de guerre civile, pendant lesquels on y combattait sans cesse. Tantôt les puritains remerciaient Dieu d'avoir pu verser le sang des loyaux, tantôt les loyaux lui rendaient grâce d'avoir fait couler celui des puritains. Beaucoup d'honnêtes citoyens perdirent tout ce qu'ils possédaient en ce temps-là, pour être restés fidèles à leur conscience, et, réduits à la mendicité, ils abandonnèrent leur ville natale. Il existe sans doute encore plus d'une maison dont ces consciencieux citoyens s'éloignèrent la tristesse au cœur. Parmi ces édifices à pignons délicats, ayant vue sur la rivière resserrée entre des quais plus récents, quelques-uns conservent encore des passages bizarres qui tournent et retournent à angles aigus jusqu'à ce qu'ils arrivent sur une rive boueuse constamment inondée par la marée montante. Partout le brick rouge montrait sa teinte chaude à l'époque où vivait Madame Glegg, et on ne voyait point de ces élégances modernes contrastant avec les antiques coutumes, point de glace aux fenêtres des boutiques, point de replâtrage en stuc ou autre moyen trompeur pour chercher à faire de la vieille belle ville rouge de Saint-Ogs une ville née de la veille. Les fenêtres des boutiques étaient petites et sans prétention, car les femmes et les filles de fermiers qui venaient faire leurs achats les jours de marché ne se seraient pas laissées entraîner à abandonner les boutiques où elles se servaient habituellement pour de brillants étalages destinés aux chalands qui passent et qu'on ne revoit plus. Hélas, le temps même de Madame Glegg nous paraît bien relégué dans le passé maintenant, séparé de nous comme il l'est par des changements qui allongent les années. La guerre et les bruits de guerre n'agitaient plus l'esprit des hommes, et si jamais ils se représentaient à la pensée des fermiers en grandes redingotes grises, qui secouaient la graine de leurs sacs d'échantillons et s'assemblaient sur la place du marché, c'était comme un regret d'un état de choses pour eux naguère un âge d'or, alors que le prix de leurs denrées était très élevé. Certainement, il était passé le temps où la rivière pouvait amener des vaisseaux malencontreux. La Russie n'était plus pour eux qu'un pays d'où venait la graine de lin, et plus il y en avait, mieux c'était, car elle donnait de l'ouvrage aux grandes meules verticales aux bras semblables à des faux, broyant et nettoyant tout avec autant de soin que si elles étaient animées. Les catholiques, les mauvaises moissons et les mystérieuses fluctuations du commerce étaient les trois maux que l'humanité avait seule à redouter. Les inondations n'avaient pas été graves les dernières années. L'esprit des habitants de Saint-Ogs ne paraissait pas plus développé maintenant qu'auparavant. Il avait hérité d'un long passé sans s'en préoccuper et ne pensait plus aux esprits qui pouvaient hanter ses rues. Depuis les siècles où l'on avait vu sur l'eau Saint-Ogs et son bateau avec la Madone à la proue, le temps avait fait évanouir peu à peu bien des souvenirs, comme la distance fait disparaître les sommités des montagnes. Le temps présent était semblable au pays plat, où les hommes perdent la croyance aux volcans et aux tremblements de terre, pensant que le lendemain sera comme la veille, et que les forces des géants qui, une fois secouèrent la terre, sont pour toujours réduites au repos. Ce n'était plus le temps où les hommes pouvaient être dominés par leur foi, et moins encore en changer. Les catholiques étaient redoutables en ce qu'ils auraient pu s'emparer du gouvernement et des propriétés et brûler les gens vivants, et non en ce qu'ils auraient pu convertir aucun honnête citoyen de Saint-Ogs en possession de son bon sens à la croyance au pape. Une personne très âgée pouvait seule se rappeler combien une multitude ignorante avait été captivée par la prédication de Wesley dans le marché aux bestiaux. Mais depuis bien longtemps, on ne croyait plus qu'un prédicateur pût émouvoir l'âme de ses auditeurs. Un passager élan de ferveur dans quelque chair de dissident, au sujet du baptême des enfants, était le seul symptôme d'un zèle peu en harmonie avec ces temps de calme, où l'on pensait en avoir fini avec les changements. Le protestantisme se reposait à l'aise, sans s'occuper des schismes et sans s'inquiéter du prosélytisme. La dissidence s'héritait comme un bandonneur dans une chapelle, ou comme une association commerciale. Les gens d'église la considéraient comme une habitude invétérée, surtout chez les marchands détaillants, quoiqu'elle pût aussi se rencontrer dans le haut commerce. Mais avec la question catholique s'était levé un léger vent de controverse, comme pour rompre le calme. L'ancien recteur avait, à cette occasion, fait des discours historiques et argumentatifs, et M. Spray, le ministre indépendant, avait commencé à prêcher des sermons politiques dans lesquels il établissait des distinctions très subtiles entre sa ferme persuasion sur les droits des catholiques à l'affranchissement et sa ferme croyance à leur perdition éternelle. Mais la plupart des auditeurs de M. Spray étaient incapables de suivre ces subtilités, et beaucoup de dissidents à l'ancienne manière étaient très affligés de le voir prendre parti pour les catholiques, tandis que d'autres trouvaient qu'il ferait mieux de laisser la politique tranquille. L'esprit public n'était pas tenu en grande estime à Saint-Ogs, et les hommes qui s'occupaient des questions politiques étaient soupçonnés d'être presque tous des caractères dangereux. C'étaient en général des gens qui n'avaient que peu ou point d'affaires particulières dont ils dussent s'occuper. Ou, s'ils en avaient, il était à craindre qu'ils devinssent insolvables. Tel était l'aspect général des choses à Saint-Ogs au temps de Madame Glegg, et à l'époque particulière de l'histoire de sa famille, où elle eut une querelle avec M. Taleva. C'était un temps où l'ignorance était beaucoup plus commode qu'à présent, et était reçue avec tout honneur en très bonne société, sans être obligé de s'envelopper avec soin d'une apparence de connaissance. Un temps où il n'existait point de feuilles périodiques à bon marché, et où les médecins de campagne ne pensaient point à demander à leurs patientes si elles aimaient la lecture, mais se tenaient pour certain qu'elles préféraient le commérage. Un temps où les dames en riches robes de soie portaient de grandes poches où elles cachaient un os de mouton pour se garantir des crampes. Madame Glegg portait un os semblable qu'elle avait hérité de sa grand-mère, avec une robe de brocart qui pouvait se tenir toute seule, comme une cuirasse, et une canne à tête d'argent, car la famille Dodson était considérée depuis plusieurs générations. Madame Glegg avait, dans son excellente maison de Saint-Ogs, deux salons opposés, d'où elle pouvait observer les faiblesses de ses semblables et se raffermir dans sa confiance en sa force d'âme exceptionnelle. De la fenêtre de face, elle pouvait suivre la route de Tofton conduisant hors de Saint-Ogs, et remarquer chez les femmes mariées à des hommes encore dans les affaires une tendance croissante à courir la prétentaine, se joignant au nouvel usage de porter les bas de coton faits au métier, ce qui offrait une triste perspective pour la génération future. De ses fenêtres opposées, elle pouvait dominer un agréable jardin et le verger qui s'étendait jusqu'à la rivière. Elle pouvait observer la folie de M. Glegg, qui passait son temps au milieu de ses fleurs et de ses légumes. Car M. Glegg, s'étant retiré de son commerce actif des laines, dans le but de se reposer le reste de ses jours, avait trouvé l'inaction beaucoup plus fatigante que les affaires, et s'était adonné au rude travail de jardinier amateur comme distraction. L'économie des gages d'un jardinier aurait peut-être pu amener Mme Glegg à fermer les yeux sur cette folie, s'il était possible à une femme d'un esprit sain de montrer du respect pour les manies de son mari. Il est bien reconnu que cette condescendance conjugale ne peut appartenir qu'aux êtres inférieurs du sexe, connaissant peu la responsabilité d'une femme, qui doit être un frein continuel pour modérer le plaisir de son mari, lesquels ne peuvent presque jamais être d'une nature raisonnable ou recommandable. M. Glegg, de son côté, avait une source d'occupation mentale qui promettait d'être inépuisable. D'une part, il était surpris de lui-même par ses découvertes en histoire naturelle. Selon lui, ce petit jardin renfermait des chenilles, des limaces et autres insectes extraordinaires, lesquels, autant qu'il pouvait le savoir, n'avaient jamais jusqu'ici attiré l'attention des hommes. Et il trouvait de remarquables coïncidences entre ces phénomènes zoologiques et les grands événements du temps. Ainsi, par exemple, avant l'incendie de la cathédrale d'York, il avait vu de mystérieuses marques serpentantes sur les feuilles des rosiers et une abondance de limaces, dont il avait été très embarrassé de trouver la signification, jusqu'à ce qu'il la reconnût tout d'un coup dans ce triste événement. M. Glegg avait une dose peu commune d'activité d'esprit qui, ne pouvant plus s'appliquer au commerce des laines, devait naturellement se frayer quelque autre direction. Son second sujet de méditation était l'esprit de contradiction du sexe féminin, dont Madame Glegg lui offrait le type. Qu'une créature formée, dans le sens généalogique, de la côte d'un homme, placée et maintenue comme Madame Glegg dans l'état le plus honorable, sans y avoir pris peine, pût être constamment en contradiction avec les propositions les plus douces et les plus accommodantes concessions, voilà ce qui était pour M. Glegg un mystère de la création, auquel il avait souvent, mais en vain, cherché une solution dans les premiers chapitres de la Genèse. M. Glegg avait choisi l'aînée des Miss Dodson comme une belle incarnation d'économie et d'activité féminine, et, cherchant lui-même à amasser de l'argent, il avait compté sur beaucoup d'harmonie conjugale. Mais dans le singulier composé du caractère féminin, il peut facilement arriver que le goût, quoique résultant d'excellents ingrédients, soit peu agréable, tout comme une belle économie domestique peut être accompagnée de particularités qui lui ôtent tout son charme. Pour le bon M. Glegg lui-même, il était économe de la manière la plus agréable. Ses voisins l'appelaient « regardant », ce qui veut toujours dire que la personne en question est d'une économie exagérée. Si vous exprimiez votre préférence pour la croûte du fromage, M. Glegg se souvenait toujours de vous la réserver, très heureux de pouvoir donner cette satisfaction à votre palais, et il était porté à soigner tous les animaux qui ne demandaient aucune dépense appréciable. Il n'y avait en lui aucune fausseté ni hypocrisie. Ses yeux se seraient mouillés de larmes sincères en voyant la vente du mobilier d'une veuve qu'il aurait pu prévenir en sortant de sa poche un billet de 5 livres. Mais le don de 5 livres à une personne de petite condition lui aurait paru une espèce de folle prodigalité plutôt qu'une charité, laquelle s'était toujours présentée à lui comme une contribution de petit secours et non comme un moyen d'empêcher une infortune. M. Glegg aimait autant à économiser l'argent des autres que le sien propre. Il aurait fait un aussi long détour en cabriolet pour éviter une barrière de péage, quoique ses dépenses dussent lui être remboursées, que si elles n'avaient pas dû rentrer dans sa poche. Et il mettait un zèle louable à engager des personnes qu'il connaissait peu à adopter une nouvelle méthode de cirage peu coûteux. Cette habitude persistante de l'économie, comme étant elle-même un but, appartenait à l'homme d'affaires industrieux de la génération précédente, où les gens faisaient leur fortune lentement, tout comme de traquer le renard et le propre du chien courant. C'était pour ces gens-là une espèce de chasse à cours, qui est presque perdue dans notre temps de gains rapides, où la prodigalité succède si vite aux besoins. Dans cette époque de vieilles habitudes, l'indépendance s'obtenait rarement, sans l'aide d'un peu de parcimonie. Et vous auriez trouvé dans presque chaque district de province ce défaut uni à des caractères aussi variés entre eux que les fruits dont nous pouvons extraire un suc acide. Les véritables harpagons étaient toujours remarqués comme des personnages exceptionnels. Mais il n'en était point ainsi des estimables contribuables qui, ayant dû naguère s'imposer beaucoup de privations par nécessité, conservaient, même au milieu de leur retraite confortable, l'habitude de regarder l'existence comme un moyen de jouir modestement, mais sans laisser le déficit. Ils auraient aussi facilement renoncé, quoique possédant 500 livres de revenus, à un objet de luxe nouvellement taxé que lorsqu'ils n'avaient que 500 livres de capital. M. Glegg était un de ces hommes que les percepteurs de contributions trouvent peu faciles, et vous pourrez comprendre pourquoi il n'avait point perdu la conviction d'avoir fait un bon mariage, malgré l'assaisonnement trop piquant que la nature avait départi aux vertus de l'aîné des Miss Dodson. Un homme disposé à l'affection, qui trouve une femme d'accord avec lui touchant son idée fondamentale de la vie, en vient facilement à se persuader qu'aucune autre femme n'aurait pu lui convenir aussi bien, et fait tous les jours sa petite sieste et sa petite querelle sans aucun sentiment de mésintelligence. M. Glegg, qui était porté à la réflexion et qui ne s'occupait plus du commerce des laines, s'étonnait et méditait beaucoup sur la constitution singulière de l'esprit féminin qui dirigeait sa vie domestique. Cependant, il trouvait que la tenue du ménage de Madame Glegg pouvait servir de modèle à tout son sexe. Il était péniblement frappé, comme d'une déplorable irrégularité chez les autres femmes, si elles ne pliaient pas leurs serviettes de table avec autant de netteté et d'importance que le faisait Madame Glegg, si leur pâtisserie avait une apparence moins dorée, et si leur pudding aux raisins était moins compact que les siens. Bien plus, même la combinaison particulière d'odeur d'épicerie et de droguerie du buffet de Madame Glegg lui faisait l'effet d'être le seul parfum convenable en matière de buffet. Je ne suis pas bien sûr qu'il n'eût pas désiré un renouvellement de disputes si elles avaient cessé pendant toute une semaine. Et il est certain qu'une femme douce et accommodante eût laissé ses méditations dépourvues de sujet et comparativement privées de cet intéressant mystère. La bienveillante douceur de cœur de M. Glegg se montrait évidemment en ce qu'il avait plus de chagrin de voir sa femme en discussion avec d'autres qu'avec lui-même, fût-ce avec Dolly, la domestique. La querelle entre elle et M. Tallevar le fâcha tellement qu'elle gâta complètement le plaisir qu'il aurait eu sans cela à voir l'état de ses choux printaniers en se promenant dans son jardin le lendemain avant le déjeuner. Toutefois, il rentra pour prendre ce repas avec un léger espoir que, Madame Clegg ayant dormi là-dessus, sa colère serait assez calmée pour conserver le décorum habituel de sa famille. Elle s'était souvent vantée de ce qu'il n'y avait jamais eu entre les Dodson une de ces mortelles querelles qui avaient déshonoré d'autres familles, de ce qu'aucun Dodson n'en avait jamais lésé un autre d'un shilling, et de ce qu'aucun cousin des Dodson n'avait jamais été désavoué. À la vérité, pourquoi l'aurait-il été? Car il n'avait point de cousins qui n'eussent de l'argent disponible, ou tout au moins quelques maisons en propriété. Chaque soir, Madame Glegg avait au front une espèce de nuage qui disparaissait le lendemain, quand elle prenait place à la table du déjeuner. C'était son tour de cheveux défrisés, car, lorsqu'elle s'occupait elle-même du ménage le matin, c'eût été une véritable extravagance que de mettre quelque chose d'aussi superflu qu'un tour de cheveux pour faire de la pâtisserie. À 10h30, le décorum exigeait le tour. Jusque-là, Madame Glegg pouvait en faire l'économie, et la société ne s'en portait pas moins bien. Mais l'absence de ce nuage factice n'en rendait que plus apparent le nuage moral de sévérité qui restait. Et M. Glegg, qui l'aperçut, en s'asseyant pour manger sa soupe au lait, avec laquelle il avait la vieille habitude d'apaiser sa faim matinale, résolut prudemment de laisser Madame Glegg dire le premier mot, dans la crainte de froisser un article aussi délicat qu'une humeur de femme. Les personnes qui jouissent de leur mauvaise humeur savent l'entretenir en s'infligeant à elles-mêmes des privations. C'était la méthode de Madame Glegg. Elle fit son thé plus faible qu'à l'ordinaire ce matin-là et se refusa le beurre. Il était cruel qu'une aussi belle disposition à profiter de toute occasion de querelle ne put rencontrer une seule remarque de M. Glegg sur laquelle elle put s'exercer. Mais bientôt ce silence même produisit l'effet désiré, et il s'entendit apostropher de ce ton particulier à la femme de son cœur. « Très bien, M. Glegg. C'est une pauvre récompense pour avoir été envers vous la femme que j'ai été pendant toutes ces années. Si c'est la manière dont je dois être traité, il aurait mieux valu que je le susse avant la mort de mon pauvre père. » Et alors, si j'avais eu besoin d'un chez-moi, j'aurais pu me rendre ailleurs, puisque j'en avais le choix. M. Glegg s'arrêta de manger sa soupe et leva les yeux, non point avec un nouvel étonnement, mais avec cette surprise calme et habituelle où nous laisse la vue de mystères continuels. « Eh bien, Madame Glegg, qu'ai-je donc fait à présent ?»« Fait à présent, M. Glegg ? Fait à présent ? J'en suis fâché pour vous. » Ne voyant aucun moyen de répondre convenablement, M. Glegg en revint à sa soupe. Il y a des maris dans le monde, continua Madame Glegg après un silence, qui sauraient mieux faire que de se mettre du parti de chaque personne qui attaque leur femme. Peut-être ai-je tort, et pourriez-vous mieux me renseigner. Mais j'ai toujours entendu dire que c'est le rôle du mari de soutenir sa femme au lieu de se réjouir et de triompher quand les gens l'insultent. « Voyons, quel motif avez-vous de dire cela ?» dit M. Glegg un peu vivement. Quoiqu'il fût bienveillant, il n'était pas aussi doux que Moïse. « Quand me suis-je réjoui ou ai-je triomphé contre vous ? Il y a des manières de faire les choses qui sont pires que de parler ouvertement, M. Glegg. J'aimerais autant que vous me disiez en face que vous faites peu de cas de moi, que de laisser voir que vous pensez que tout le monde a raison, excepté moi, et quand j'ai à peine dormi cette nuit, de venir ce matin avec l'air aussi rechigné contre moi que si j'étais la boue de vos souliers. « Rechigné contre vous ? » dit M. Glegg d'un ton de plaisanterie fâché. « Vous êtes comme un homme ivre qui s'imagine que tout le monde a bu plus que lui. » Ne vous abaissez pas par un grossier langage à mon égard, monsieur Glegg. Cela vous fait paraître bien petit, quoique vous ne puissiez vous voir, dit madame Glegg d'un ton de vive compassion. Un homme dans votre position devrait donner l'exemple de parler avec plus de bon sens.
Oui, mais voulez-vous écouter le bon sens ?
Répondit monsieur Glegg aigrement. La chose la plus sensée que je puisse vous dire est ce que je vous ai dit hier au soir. C'est que vous avez tort de vouloir retirer votre argent quand il est assez en sûreté si vous le laissez tranquille. Et le tout à propos d'une petite boutade. J'espérais que vous en auriez changé l'idée ce matin. Mais si vous voulez le retirer, ne le faites pas à la hâte, en créant encore plus d'inimitié dans la famille. Attendez jusqu'à ce que vous puissiez vous procurer une bonne hypothèque. Il vous faudra employer un procureur pour chercher un bon placement, et cela vous fera des frais sans fin.
Madame Glegg sentit qu'il y avait là quelque chose de vrai. Mais elle secoua la tête et émit une interjection gutturale pour indiquer que son silence n'était qu'un armistice et non la paix. Par le fait, les hostilités reprirent bientôt.
« Je vous serai obligé de me donner une tasse de thé maintenant, Madame Glegg, » dit Monsieur Glegg, voyant qu'elle ne lui en donnait point, comme à l'ordinaire, quand il eut fini son potage. Elle souleva la théière avec un léger mouvement de tête et dit « Je suis bien aise d'apprendre que vous me serez obligé, monsieur Glegg. Je reçois peu de remerciements de ce que je fais pour les gens dans ce monde, quoiqu'il n'y ait pas une femme de votre famille qui puisse m'être comparée. C'est ce que je dirais même sur mon lit de mort. Pourtant, je me suis toujours conduite avec politesse envers vos parents, et pas un d'entre eux ne peut dire le contraire. Quoiqu'ils ne soient pas mes égaux, personne ne me le fera jamais dire.
Vous feriez mieux de ne pas chercher à trouver des défauts aux gens de ma famille, avant d'avoir cessé de vous quereller avec ceux de la vôtre, dit monsieur Glegg en se fâchant. Je vous demanderai le pot au lait.
C'est la chose la plus fausse que vous ayez jamais dite, monsieur Glegg, dit sa femme en lui versant du lait avec une profusion inusitée, comme pour dire que s'il en voulait, la vengeance viendrait avec.
Et vous savez que c'est faux. Je ne suis pas une femme à me quereller avec ma propre parenté.
Vous pouvez le faire, vous. Je vous ai vu le faire.
Tiens. « Comment appelez-vous donc la manière dont vous avez quitté hier soir au grand galop la maison de votre sœur ?»«
Je n'ai point eu de dispute avec ma sœur, monsieur Glegg, et c'est faux de le dire. Monsieur Talleyvain n'est pas de mon sang, et c'est lui qui m'a querellé et fait sortir de la maison. Mais peut-être auriez-vous désiré que je fusse resté, pour que l'on m'injuriât, monsieur Glegg. Peut-être avez-vous été fâché de ne pas entendre déverser plus d'insultes et de sales paroles sur votre propre femme. » Mais permettez-moi de vous dire que c'est une honte pour vous.
A-t-on jamais entendu quelque chose de semblable dans la paroisse ? Dit monsieur Glegg en s'échauffant.
Une femme à qui l'on fournit tout, qui a l'autorisation de garder tout son argent, comme s'il lui était assuré par contrat, qui a un cabriolet nouvellement rembourré et bordé à grands frais, et à laquelle j'ai assuré, après ma mort, plus que tout ce qu'elle pouvait espérer. S'en aller de cette manière, mordre et déchirer comme un chien enragé. Cela dépasse toute imagination que le Dieu Tout-Puissant ait fait ainsi les femmes. » Ces dernières paroles furent proférées d'un ton de triste agitation. M. Glegg poussa sa tasse devant lui et frappa la table de ses deux mains.
« Très bien, Monsieur Glegg, si ce sont vos sentiments, il est bon qu'on les connaisse, » dit Madame Glegg en ôtant sa serviette et la pliant convulsivement.
Mais si vous dites que je suis pourvu de tout beaucoup plus que je ne devais m'y attendre, je me permettrai de vous répondre que j'avais droit d'espérer beaucoup de choses que je ne trouve pas. Et pour ce que vous dites d'un chien enragé, il est heureux que l'on ne vous montre pas du doigt dans tout le comté pour votre manière de me traiter. C'est ce que je ne puis ni ne veux supporter. » Ici la voix de Madame Glegg indiqua qu'elle allait pleurer, et interrompant son discours, elle agita violemment la sonnette. « Sally, dit-elle en se levant de sa chaise et parlant d'une voix un peu étranglée, allumez le feu là-haut et baissez les stores. Monsieur Glegg, vous voudrez bien ordonner ce qu'il vous plaira pour dîner. Je prendrai du gruau. »
Madame Glegg traversa la chambre et prit sur l'étagère le repos éternel des saints de Baxter, qu'elle emporta en montant chez elle. C'était le livre qu'elle avait l'habitude de tenir ouvert devant elle dans les occasions rares. Les matins de dimanche pluvieux, ou quand elle apprenait une mort dans la famille, ou lorsque, ainsi dans le cas actuel, Sa querelle avec M. Glegg était montée à un octave plus haut qu'à l'ordinaire. Mais Mme Glegg emporta avec elle quelque chose qui, joint au repos des saints et au gruau, put avoir assez d'influence pour calmer peu à peu ses impressions et l'aider à consentir à redescendre un peu avant le moment du thé. Ce fut en partie l'idée suggérée par M. Glegg qu'elle ferait aussi bien de laisser ses 500 livres tranquilles jusqu'à ce qu'il se présentât un bon placement. Et de plus, son insinuation accidentelle sur la belle position qu'il lui faisait après lui. M. Glegg, comme tous les hommes de sa trempe, était très réservé à l'égard de son testament. Et Mme Glegg, dans ses moments les plus sombres, avait la crainte que, de même que beaucoup d'autres maris dont elle avait entendu parler, il ne se proposât le plaisir médiocre d'augmenter sa douleur de le perdre en lui laissant fort peu de choses. Dans ce cas, elle était résolue à mettre à peine du crêpe à son chapeau et à ne pas pleurer plus que s'il eût été un second mari. Mais s'il lui avait vraiment montré de la tendresse dans son testament, ce serait touchant de regretter ce pauvre homme quand il ne serait plus. Même la ridicule importance qu'il mettait à son jardin et au colimaçon deviendrait alors émouvante. Survivre à M. Glegg et parler avec éloge de lui comme d'un homme qui pouvait avoir eu ses faiblesses, mais qui s'était bien conduit à son égard, malgré ses nombreux parents pauvres, avoir des rentrées d'intérêt plus fréquentes et les disperser dans différentes cachettes pour désorienter les plus habiles voleurs, car dans l'esprit de Mme Glegg, les banques et les coffres-forts auraient annulé le plaisir de la possession, enfin être considéré dans sa propre famille et son voisinage, comme n'aurait jamais pu l'espérer une femme qui n'aurait pas la dignité passée et présente que lui assurait sa qualité de veuve bien pourvue, tout cela offrait dans l'avenir une perspective flatteuse et conciliante. Aussi, lorsque le bon M. Glegg, rendu à la bonne humeur, après avoir beaucoup remué la terre et ému par la vue de la chaise vide de sa femme et de son tricot roulé dans un coin, monta vers elle pour lui dire que les cloches avaient sonné pour la mort du pauvre M. Morton, Mme Glegg répondit avec magnanimité, comme si on ne l'avait jamais blessée. « Ah, c'est une bonne affaire pour son successeur !» Baxter avait été ouvert au moins 8 heures, car il en était à peu près 5. Et si les gens doivent se quereller souvent, il s'ensuit comme corollaire que leurs querelles ne peuvent se prolonger au-delà de certaines limites. Monsieur et Madame Glegg parlèrent amicalement de Taleva ce soir-là. Monsieur Glegg admit que Taleva s'échauffait malheureusement comme de l'eau bouillante et qu'il courait probablement à sa ruine. Pour Madame Glegg, voulant bien reconnaître la chose, elle déclara qu'il serait au-dessous d'elle de s'occuper de la conduite d'un tel homme, et qu'à cause de sa sœur, elle lui laisserait encore quelque temps ses 500 livres, car si elle les plaçait à hypothèque, elle n'en tirerait que 4%.